Gloire à Dieu. On continue notre enseignement dans le livre des Actes des Apôtres. Wow, c'est tout un livre que le livre des Actes des Apôtres. Et on est dans le deuxième chapitre. On s'est arrêté là volontairement assez longtemps sur le deuxième chapitre parce que c'est évidemment le chapitre principal, non seulement du livre des Actes des Apôtres, mais c'est le chapitre principal de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, puisque dans ce deuxième chapitre, nous voyons l'arrivée du Saint-Esprit que Jésus avait promis, leur avait dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et on est en train d'apprendre pourquoi c'est si important d'être baptisé du Saint-Esprit. Et jusqu'à présent, on a vu plusieurs raisons. Premièrement, c'est que c'était une assurance de plus concernant notre salut. On sait qu'en étant sauvé, on a déjà le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais Paul dit, lorsque nous recevons la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme un sceau, un gage de notre héritage. Gloire au Seigneur. Et comme on a appris, le mot gage, c'est le mot arabona dans le texte grec qui veut dire bague de fiançailles. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous portons la bague de fiançailles. Alléluia! Quelle grande assurance! Puis on a vu que grâce au Saint-Esprit, nous avions la liberté de pouvoir louer le Seigneur. Gloire à Dieu! Et c'est à nous d'en profiter. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la liberté d'entrer dans le domaine de la louange. Et c'est très précieux, ça aussi. Il y a très peu de chrétiens qui profitent de cet accès que nous avons dans le domaine de l'Esprit de Dieu, le domaine céleste, domaine de la louange et de l'adoration. Bien souvent, malheureusement, on se contente juste un petit peu de louange, mais si on pouvait apprendre à persévérer dans la louange, c'est tellement puissant la louange que des guerres ont été gagnées dans l'Ancien Testament, uniquement par la louange. Alléluia! Le diable n'aime pas la louange, c'est pourquoi c'est toujours tellement difficile d'entrer dans cette liberté-là que le Saint-Esprit nous donne, de pouvoir ouvrir notre bouche et louer le Seigneur. Pourtant, nous l'ouvrons notre bouche. Amen. Et nous parlons, et nous causons, et nous causons. Et souvent, lorsqu'on arrive à l'église et on veut rendre un culte à Dieu, soudainement, c'est difficile d'ouvrir notre bouche et de laisser sortir cette louange, ce sacrifice de louange. Mais si nous le faisons, le feu de Dieu descendra, parce que le feu descend toujours sur le sacrifice qui est offert. Alléluia. Troisièmement, on a vu que c'était pour notre développement spirituel, puisque maintenant que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues, et Paul nous explique que celui qui parle en d'autres langues, il s'édifie lui-même. Alléluia! C'est un bon moyen de développement spirituel. Quatrièmement, on a vu que c'était pour fonctionner par l'inspiration du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos ministères plutôt que par la sagesse des hommes. En fait, c'est la différence entre l'humanisme et le dynamisme de Dieu. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le mot grec est dynamis, et vous serez mes témoins. Et ou bien nous fonctionnons par le dynamisme de Dieu, ou nous fonctionnons par l'humanisme des hommes. Et on a besoin de ce baptême du Saint-Esprit pour nous aider à fonctionner selon l'inspiration du Saint-Esprit et non seulement le raisonnement humain. Le raisonnement humain est excellent, ça vient de Dieu et nous devons nous en servir dans les choses de ce monde. Mais lorsque nous arrivons dans le domaine spirituel, ce n'est pas ça qui prime, ce n'est pas ça qui est en premier lieu. En premier lieu, c'est la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et vous allez constater que souvent, le Seigneur va vous demander de faire des choses qui sont illogiques au raisonnement humain. Alors, si on n'apprend pas à être conduit par le Saint-Esprit et nous préférons la sécurité d'être conduit par notre raisonnement humain, bien, nous allons manquer beaucoup de choses que l'Esprit voulait faire au travers de nous parce qu'on n'osera pas faire des choses que nous ne comprendrons pas ou qui ne semblent pas logiques à notre raisonnement humain. Et on a pris le texte, vous vous souvenez, dans Corinthiens, alors que Paul, Saul de Tarse, comme on a expliqué, qui est tellement instruit et qui a le meilleur des deux mondes, qui a le meilleur du monde grec, et c'était la plus grande éducation qui existait à l'époque où Paul vivait, Et aussi, il y avait le meilleur de l'enseignement juif, étant élevé au pied de Gamaliel, qui était le meilleur enseignant reconnu de l'époque du côté de la loi. Alors, c'est un homme très instruit et il nous dit que lorsqu'il est venu chez les Corinthiens, qui pourtant est une église de charnel, il vient avec tremblement. Il craint en prêchant la parole de Dieu, pas parce qu'il a peur des Corinthiens, mais parce qu'il ne veut pas recourir à son intellect, à son intelligence humaine, à son grand savoir, mais il veut vraiment uniquement prêcher par révélation, par l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça devrait être la même chose avec nous. Qu'on soit prédicateur ou non, c'est la même chose. Nous devons apprendre à être dirigés par l'inspiration du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Cinquièmement, finalement, on a appris la semaine dernière qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit et nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit afin que celui-ci puisse leur rappeler les enseignements que Jésus leur avait donnés. La Bible dit que nous sommes des auditeurs oublieux. On oublie facilement. Amen. Est-ce que vous vous souvenez du message de dimanche dernier? De deux dimanches passés? Preuve qu'on est des auditeurs oublieux. Et c'est pourquoi on a plus qu'une réunion par semaine. Dites amen. Alléluia. Parce que nous oublions facilement et nous sommes bombardés, littéralement bombardés, à la journée longue par des messages, par des flashs, par des pensées. Ça bouge dans notre monde. Ça bouge dans notre tête. Et souvent, la semence de la parole de Dieu, si elle n'est pas entretenue, elle disparaît. Elle est volée par ces flashs-là, ces pensées-là, et ce bombardement continuel dont nous sommes sujets. Alors, c'est pourquoi on doit répéter et répéter et répéter. La Bible dit que c'est comme ça que ça finit par entrer profondément dans notre cœur, dans notre esprit, à force d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ils devaient rappeler les choses que Jésus leur avait enseignées. Et surtout, c'était important pour eux, mais je pense que c'est tout aussi important pour nous, parce que eux, comme on a expliqué la semaine dernière, ils étaient vraiment, vraiment pris dans un système qui était un bon système, parce que c'était le système de l'Ancien Testament, qui venait de Dieu. Toute la loi que Dieu avait donnée à Moïse, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui l'avait donnée à Moïse. Tout le système du Lévitique. Imaginez, comme on a dit mercredi dernier, c'était toute une chose pour les premiers disciples de Jésus de commencer à prêcher qu'on n'a plus besoin de temple à Jérusalem. C'est comme prêcher aux catholiques qui n'ont plus besoin du Vatican à Rome. C'est à peu près la même chose. Pouvez-vous vous imaginer le défi qu'ils avaient de prêcher, de dire aux gens, vous n'avez plus besoin d'amener des animaux ou des oiseaux au prêtre lévite pour le sacrifice, pour le pardon de vos péchés. C'est fini, c'est révolu, il n'y en a plus de prêtre lévite, plus besoin de sacrifice. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. C'était le sacrifice parfait. Mais c'est pas évident de prêcher ça à Jérusalem, il y a 2000 ans passés. Tu vas te faire lapider avant qu'ils comprennent quelque chose. Et comme on a dit, 60 et 10 ans, ou si on prend que Jésus est mort à l'âge de 33 ans, c'est presque 40 ans plus tard, le temple fonctionne encore très bien à Jérusalem. La lignée des prêtres lévitiques fonctionne encore très bien. À tous les jours, les prêtres font encore des sacrifices. Une fois par année, pendant encore presque 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus, le souverain sacrificateur existe encore. Il entre encore au-delà du voile. Le voile avait été déchiré par Dieu, mais il a été recousu par les hommes. La gloire Shekinah ne se manifestait plus, mais la tradition, c'est tellement fort que même si Dieu nous montre clairement qu'il n'est plus dans ces choses-là, habituellement, les êtres humains vont continuer quand même. Parce qu'on est habitué de faire les choses d'une certaine façon. Une des choses les plus difficiles, c'est de changer. Amen. Alors, imaginez la situation. Ça prend absolument le Saint-Esprit. Et même avec le Saint-Esprit, ça a pris des années et des années avant même que les premiers apôtres, Pierre, Jacques, Jean et les autres, ne comprennent la grâce. Ils n'ont même pas vraiment compris tout de suite. Et on peut peut-être pas vraiment les blâmer parce que on n'aurait sans doute pas fait mieux, parce que c'est toute une transition. C'est tout un changement que Jésus est venu faire en venant sur cette terre, en donnant sa vie et en ressuscitant d'entre les morts. C'est tout l'ancien système qui est terminé et le Seigneur inaugure toute une autre façon de venir à lui, de s'approcher de lui, toute une autre façon de prier, toute une autre façon de vivre pour Dieu. Et ça prenait absolument le Saint-Esprit pour percer ce système-là et puis inaugurer la voie nouvelle. Hallelujah! Inaugurer la dispensation de la grâce pour leur dire que ce n'est plus nécessaire de faire tous ces travaux, tous ces sacrifices, parce que maintenant, c'est par grâce que nous pouvons nous approcher de Dieu par le moyen de la foi. Hallelujah! N'êtes-vous pas heureux de vivre maintenant plutôt que dans l'Ancien Testament? Amen! Gloire à Dieu! Parce que c'est beaucoup plus facile maintenant que ce ne l'était à l'époque. Le premier qui a compris et osé vraiment prêcher ouvertement le changement de dispensation, c'est Étienne. Et vous savez, si il est arrivé, on l'a lapidé, justement. Et vous le lirez, peut-être que plus tard, quand nous arriverons dans ces chapitres, on s'y attardera un peu plus. Mais dans le 6e et 7e chapitre du livre des Actes des Apôtres, on voit Étienne, qui n'est même pas un apôtre. Les apôtres n'ont pas vraiment encore compris, mais Étienne a vraiment saisi la révélation par le Saint-Esprit qu'on n'est plus dans l'ancien système de Dieu, on est dans un nouveau système qui s'appelle la grâce. Alléluia! Et il va prêcher, la Bible dit, dans la synagogue dite des affranchis. Et supposément à l'époque, ceux qui fréquentaient ce genre de synagogue avaient l'esprit beaucoup plus ouvert, si tu veux, que les Juifs en général. Et on se serait attendu à ce que les gens puissent comprendre davantage le message d'Étienne, parce que vraiment Étienne, vous lirez à nouveau son message qu'il a donné, c'était tellement clair que ce dont on l'a accusé, c'est de prêcher contre la loi et contre Moïse et contre Dieu. Alors si on a accusé Étienne de prêcher contre la loi, c'est qu'Étienne avait compris que la loi était finie. La loi était terminée en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il n'y a pas les livres du Nouveau Testament à sa disposition pour prêcher cela. Et il le sait par révélation. Il se souvient de ce que Jésus enseignait. Le Saint-Esprit lui ramène les enseignements de Jésus. Mais le Saint-Esprit lui donne aussi l'illumination, la révélation que toute la loi de l'Ancien Testament s'est terminée en Jésus-Christ. Maintenant, pour nous, c'est facile de comprendre cela parce qu'on a des textes écrits noir sur blanc, comme dans Romains, qui dit « Christ, c'est la fin de la loi ». Et on comprend que nous ne pouvons pas avoir la loi et la grâce en même temps. Nous devons choisir. Si vous choisissez la loi, j'ai compassion de vous. Parce que, wow, il y a 600 quelques commandements que vous devez suivre à la lettre. Si vous manquez un commandement, la Bible dit que vous êtes coupable envers toute la loi au complet, digne de mort, digne d'être lapidé. Et même si vous amenez un agneau ici, il n'y a pas de prêtre lévite pour le sacrifier à Dieu pour le pardon de vos péchés. Alors, on est mieux de choisir la grâce. Aimez-vous mieux la grâce que la loi? Alors, pour nous aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à comprendre que cette première génération de chrétiens, surtout les premiers apôtres et les premiers disciples. Mais Étienne a compris et il a prêché de façon tellement claire que ces gens-là de la synagogue, qui pourtant sont supposés être des affranchis, ont dit, il a prêché contre Moïse. Il a prêché contre la loi. Il a prêché contre Dieu et contre nos coutumes. Ça veut dire que son message était vraiment clair et qu'Étienne a vraiment été réellement inspiré par le Saint-Esprit. Puis il leur a dit que la loi est finie. Il n'y a plus besoin de venir au temple. En fait, on n'a plus besoin de temple ici à Jérusalem. Plus besoin des prêtres lévites. Plus besoin de payer votre dîme aux prêtres lévites. Parce que leur job terminé, ils n'ont plus de travaux, c'est fini. Christ a tout accompli sur la croix de Golgotha. Le voile a été déchiré. Dieu voulait dire que le sacerdoce lévitique était terminé et que maintenant il y avait un nouvel ordre sacerdotal, celui de Melchisédek, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et que nous aussi, nous sommes tous, si nous croyons en Jésus, des prêtres et des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek aussi. Wow! Si tu prends ça aujourd'hui, déjà tu as des problèmes. Imagine si tu prends ça à Jérusalem, à quelques mètres du temple. Alors, ils ont dit, « Toi, mon petit Étienne, c'est vraiment pas rigolo ce que tu es en train de prêcher. Tu es en train de t'attaquer à nos institutions. Tu es en train de t'attaquer à Moïse, à Dieu et à nos coutumes. Alors, on va te traîner devant le Sanhédrin. » Ça, c'est vraiment pas comique, le Sanhédrin. Et ils l'ont... le message que qu'Étienne avait donné aux Juifs de la synagogue dite des affranchis, c'est rien en comparaison du message que maintenant il va livrer au Sanhédrin. Et c'est l'Esprit au jugé bon de garder ce message-là. C'est inscrit dans votre Bible, dans le 7e chapitre. Le message que Tiède donne finalement au Sanhédrin, puis termine en leur disant qu'ils sont comme leur père, des rebelles qui résistent et qui s'opposent, remarquez le terme, qui s'opposent toujours au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, si vous décidez de marcher par la puissance du Saint-Esprit, c'est sûr et certain que vous allez marcher à contre-courant. C'est sûr et certain que vous allez rencontrer de l'opposition. Et l'opposition, habituellement, ne vient pas du monde extérieur, vient du monde, entre guillemets, chrétien. Parce que vous bousculez leurs traditions religieuses, vous bousculez leurs coutumes religieuses, vous touchez à leur Moïse, aux règlements et aux lois des hommes. Et c'est pourquoi il y a toujours beaucoup d'opposition si vous décidez de marcher par le Saint-Esprit. Et Étienne ne s'est pas gêné. Il leur a dit, vous vous opposez, comme vos pères d'ailleurs, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la révélation venait du Saint-Esprit. Ce qu'Étienne prêchait venait de l'illumination et de la révélation du Saint-Esprit. Il était en plein dans le mille, dans le centre de la vérité. Mais eux, ils n'étaient pas prêts à faire ce changement-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont traîné à l'extérieur de la ville et finalement, ils l'ont lapidé. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, afin de nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Gloire à Dieu, parce qu'on est dans un temps aussi d'opposition, mais en même temps, on est sur le point de revivre le livre des Actes des Apôtres. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin de ces choses-là. Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 5, Paul dira ceci. En lisant ces quelques lignes, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé. Remarquez la terminologie, c'est toujours la révélation. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Alléluia. La révélation vient du Saint-Esprit et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Sixième raison, on a besoin du baptême du Saint-Esprit pour connaître la direction dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans un des cinq ministères d'autorité, mentionné dans Éphésiens chapitre 4, à compter du verset 11, Paul explique qu'il y a cinq ministères d'autorité qui ont été donnés à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole. Ça, ce sont les cinq ministères d'autorité dans le corps de Christ, mais en réalité, chaque membre du corps est dans le ministère. Chaque enfant de Dieu a un ministère. Chacun d'entre vous ici ce soir, vous avez un ministère. Vous avez des dons, vous avez des appels différents et des ministères différents. Et peu importe le ministère que nous accomplissons, peu importe le ministère auquel nous avons été appelés, il y a toujours deux possibilités, deux façons d'accomplir son ministère. Charnellement ou par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour comprendre la direction du Saint-Esprit dans notre ministère. Peu importe quel est le nom de votre ministère. Tournez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, un peu plus loin, 13e chapitre. Et on a un bon exemple ici de la façon dont Dieu voudrait que ça fonctionne, les ministères, dans l'Église. Les quatre premiers versets, nous lisons ceci. « Il y avait dans l'Église d'Antioche. Ben, Antioche est devenu le deuxième grand centre chrétien de la première génération de chrétiens. Le premier grand centre chrétien, évidemment, c'est Jérusalem. C'est là que ça a débuté. Saint-Esprit est venu dans la chambre haute à Jérusalem. Et la première église a été fondée à Jérusalem. Et ce n'était pas une petite église, ce n'était pas une petite assemblée, puisqu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui se sont attachées à l'église locale de Jérusalem. Et c'était toute une église parce que, écoutez, c'est la première église. C'est comme la maison mère. Les grands noms sont là, les grands apôtres sont là. Pierre, Jean, Jacques. Imaginez-vous une église où tu as les grands apôtres, les premiers apôtres qui sont là en train de faire du ministère dans cette église-là. Wow! Et un fait à remarquer, c'est que pendant très longtemps, preuve que les premiers apôtres et les premiers disciples n'avaient pas vraiment bien compris la nouvelle dispensation, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apportée, sauf quelques-uns comme Étienne, qui était vraiment révélé par le Saint-Esprit, qui avait l'audace de le prêcher. Preuve, c'est que pendant de nombreuses années, l'Église de Jérusalem était à 100% juive. Il n'y avait pas un seul non-juif dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne leur prêchait pas l'Évangile aux non-juifs. On avait compris le grand message d'aller par le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle à toute création juive. Et comme j'ai expliqué déjà, il a fallu que Dieu se serve à trois reprises de la même vision pour convaincre un juif du nom de Pierre d'entrer dans la maison d'un non-juif, un Italien du nom de Corneille. Et c'est vraiment par la révélation du Saint-Esprit que Pierre a compris que le message du salut était aussi pour les non-juifs autant que pour les juifs. Et c'est avec beaucoup de précaution. Vous vous souvenez, on a prêché ça mercredi dernier, qu'il est venu chez Corneille, ne pensant donner que le salut. Il ne voulait surtout pas parler du baptême du Saint-Esprit, parce que Pierre était certain que le baptême du Saint-Esprit, c'est une affaire juive, juste pour les juifs. OK, tu m'as convaincu, Seigneur, que le salut, c'est pour les non-juifs aussi, mais certainement que le baptême du Saint-Esprit et tout le reste, c'est pour nous, les juifs. Il a fallu que Dieu lui joue un petit tour alors qu'il était en train de prêcher. Soudainement, ils ont tous accepté le Seigneur Jésus-Christ et personne n'écoute Pierre parce qu'ils sont tous baptisés du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues. Et Pierre qui a emmené des témoins avec lui parce qu'il ne voulait pas être seul, parce qu'il savait que le comité de la grande église de Jérusalem l'attendait pour avoir des explications pourquoi il est entré dans la maison d'un non-juif qui était considéré comme des chiens. Et si tu entrais selon la loi, si tu entrais dans la maison d'un non-juif et surtout mangeais avec lui, tu étais considéré comme souillé. Et Pierre savait qu'il devrait s'expliquer au comité de l'Église de Jérusalem. Alors, il a emmené des frères avec lui et il s'est retourné vers les frères et il fait cette déclaration qui prouve qu'il n'avait pas du tout l'intention de parler du baptême du Saint-Esprit. Mais il dit, mais Dieu donne même le Saint-Esprit à ceux qui ne sont pas juifs. Oui, le Seigneur donne le Saint-Esprit même à ceux qui ne sont pas juifs, même à des Québécois. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Et finalement, Corneille, c'était le premier non-juif qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a pris du temps avant qu'on lui témoigne l'Évangile. À moins qu'on considère que cet Éthiopien qui n'était pas un juif, a accepté le premier Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours eu des débats à savoir est-ce que c'est Corneille ou l'Éthiopien qui est le premier non-juif. Mais peu importe, ça a pris du temps avant qu'on puisse comprendre que le salut est accessible pour toutes les nations du monde et non seulement pour les juifs. Alors imaginez aussi cette situation. Vous n'avez qu'une seule église. Dans un sens, ce serait bon, amen, qu'il y a juste une église. Ça veut dire que tu as un problème avec le pasteur? Tu es pris là. Tu as un problème avec un frère et une sœur? Tu es pris là ou restez chez vous? En réalité, c'est comme ça que ça devrait marcher même aujourd'hui. Mais parce qu'on est des rebelles, on est têtus, on veut faire à notre tête, on a plusieurs églises. Mais il devrait n'y avoir qu'une seule église par ville, si on suit le modèle du livre des Actes des Apôtres. Ça serait beaucoup plus facile pour la discipline. On aurait moins de sauterelles d'église. Quand ça ne fait pas une plaque, tchou, ça va. Oh, c'est merveilleux. Hein? Jusqu'à ce que le problème fasse surface, une autre église. Et je connais des gens qui ont fait à peu près toutes les assemblées et qui recommencent le circuit. Quand les pasteurs changent, ils retournent dans ces églises-là. Mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Alors imaginez, il y a juste une église, l'église de Jérusalem, et jusqu'à Corneille, ce ne sont que des juifs. Il n'y a aucun non-juif qui accepte le Seigneur. Et il a fallu que Dieu intervienne. Et quand on ne comprend pas et qu'on n'obéit pas à la direction du Saint-Esprit, Dieu a une autre façon de nous faire comprendre. Ça s'appelle la persécution. Et la persécution est venue contre l'Église de Jérusalem. Et la persécution est venue tellement forte qu'ils ont dû quitter la ville, plusieurs d'entre eux. Mais lorsqu'ils ont quitté la ville, ils ont apporté avec eux le message du salut en Jésus-Christ. Parce que si tu es sauvé, tu as le message en toi. Que tu sois à l'autre bout du monde ou à ce bout ici du monde, tu as le message en toi. Tu es un porteur du message de l'Évangile. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Je n'ai pas besoin de 36 000 chambres. Je suis un transporteur de la gloire de Dieu. Je suis un transporteur du message qui peut changer la vie des gens autour de moi. Alors, lorsqu'ils ont quitté Jérusalem à cause de la persécution qui devenait très sévère, ils ont quitté, oui, mais avec le message du salut en Jésus-Christ. Et plusieurs se sont rendus surtout en Asie, région de Babylone, région d'Antioche, qui se trouve à l'est complètement de la Turquie moderne. Et des milliers et des milliers de non-juifs ont entendu prêcher l'Évangile et ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient tellement nombreux qu'à Antioche, il y a une grande assemblée qui a pris naissance et qui grandissait et qui grandissait et qui grandissait par des milliers et des milliers de Grecs surtout qui acceptaient le message du Seigneur Jésus-Christ. Et soudainement, vous avez non pas juste une seule église à Jérusalem, mais plusieurs autres églises dans les autres villes et un très grand centre également à Antioche, aussi gros qu'à Jérusalem. Vous avez deux grands centres soudainement. Celui de Jérusalem qui est presque exclusivement juif encore pendant longtemps. Et vous avez le grand centre d'Antioche qui est presque exclusivement grec. Il y a très peu de juifs à Antioche et il y a très peu de grecs à Jérusalem. Antioche devient une église pour les non-juifs surtout. Et c'est très fort, c'est très puissant ce qui se passe à Antioche. Et ça dit ici, il y avait dans l'église d'Antioche, vous connaissez un petit peu plus maintenant le contexte, il y avait des prophètes. On est plusieurs années après la Pentecôte et il y a encore des ministères de prophètes. Et aujourd'hui, il y a encore des ministères de prophètes. Alléluia! Ministère d'apôtres et ministère de prophètes font surface à nouveau dans ces derniers jours. Il y a encore des prophètes aujourd'hui. Moi, je me souviens de Eugene May, qu'on connaît bien, lorsqu'il a commencé à venir ici au Québec il y a plusieurs années. L'autorité d'une certaine dénomination qu'on connaît bien l'ont fait demander pour qu'ils puissent se rencontrer avec eux dans leur bureau. Et celui qui était en charge à ce moment-là, lui a dit, « Monsieur May, on ne peut pas vous empêcher de venir au Québec prêcher, mais on doit vous dire que nous n'acceptons pas, nous ne reconnaissons pas le ministère de prophète. » C'était pour les premiers temps de l'Église, mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu, on n'a plus besoin de prophète. Et vous savez ce que Eugene May lui a répondu? Il lui a dit, « Monsieur, est-ce que vous croyez à Matthieu chapitre 24? » Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Et Eugene May lui a dit, « Dans Matthieu chapitre 24, parle des derniers jours, là où nous sommes aujourd'hui. Et Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup de faux prophètes. Est-ce que vous croyez cela? » Et le frère a dit, « Oui, nous croyons cela. » Alors il dit, « Comment se fait-il que vous croyez que dans les derniers jours, là où nous sommes, il y a beaucoup de faux prophètes et il n'y aurait pas de vrais prophètes? » Et le frère ne savait plus quoi répondre. Et lui l'a laissé carte blanche de prêcher à titre de prophète dans la province de Québec. Et je me souviens que cette même personne, le frère Eugene May, l'a vu à nouveau, je pense c'est 200 ou 300 plus tard, et l'a appelé en avant et lui a donné des paroles prophétiques concernant son appel et son ministère qui se sont avérés vrais. Alors, il y a des apôtres. Déjà, à Antioche, on est plus loin que Jérusalem. On est plus loin que les premiers apôtres, les premiers disciples. Il y avait des prophètes et il y avait des docteurs, des enseignants de la parole. Et on va les nommer Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Menahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul. Et Saul, vous savez c'est qui Saul? L'apôtre Paul. Ouh, qu'est-ce qu'il fait à Antioche? Qu'est-ce qu'il fait à Antioche? Paul a été sauvé en route vers Damas. En haut, au nord complètement d'Israël. Et il y a eu toute une conversion, comme vous le savez. Il était renversé, c'est le cas de le dire. Conversion renversante. Et il est devenu aveugle. Et l'homme, Saul de Tarse, qui était un homme très fier, très haut gradé, parce qu'il venait avec des soldats qui étaient sous son ordre, sous ses ordres, jusqu'à Damas pour amener les chrétiens qui étaient là captifs jusqu'à Jérusalem. Comprenez, c'est pas n'importe qui, Saul de Tarse. C'est un commandant. Il y a des soldats sous ses ordres. Imaginez-vous, quelquefois, il y a une certaine humiliation que Dieu va permettre dans nos vies. Parce que c'est humiliant, soudainement, pour lui de devenir aveugle, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il ne peut plus donner d'ordre. Il est obligé de demander à ses soldats, à qui il donnait des ordres il y a quelques instants auparavant, de le soutenir pour le diriger vers Damas. Aïe, aïe, aïe. C'est humiliant un peu pour un commandant. Mais Paul a tellement vécu une conversion. Et je me dis, Seigneur, on veut voir des conversions encore comme ça aujourd'hui. Pas juste un assentiment mental que Jésus est le sauveur du monde et votre vie ne change jamais, mais une conversion totale qui change la vie des gens. Hallelujah! Tu n'es plus la même personne. Tu ne fréquentes plus les mêmes gens. Tu comprends les choses différemment. Pas besoin de 1000 personnes autour de toi pour te dire quoi faire, parce que tu es vraiment sauvé. Tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, maintenant, te dirige. Il te montre ce qui est bien, ce qui est mal. Pas besoin de 1000 personnes autour de toi pour te dire quoi faire. Si tu es vraiment sauvé, l'Esprit te parle. Amen. Et sa première réflexion, première question au Seigneur, imaginez-vous, il vient juste d'être sauvé, tu ne peux pas avoir plus bébé spirituel que ça. Sa première question, Seigneur, au moins il le reconnaît comme Seigneur déjà. Amen. Il y en a qui ne le reconnaissent même pas encore comme Seigneur après 15 ans de le connaître comme sauveur. C'est plus facile l'accepter comme sauveur que comme Seigneur. Le Seigneur veut dire qu'il est maître de tout. Il est maître de votre vie, de vos pensées, de votre argent, de votre temps, de vos possessions. Hallelujah! Il est le Seigneur, comme on dit souvent, il est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout. Mais sa première question, Saul de Tarse, Seigneur, Que veux-tu que je fasse? Wow! Le voile est déchiré en lui aussi. Parce qu'on est à l'image du temple de Dieu. On est en trois parties, nous aussi, comme le Dieu très saint, le Dieu saint, le parvis extérieur, l'esprit, l'âme et le corps. Et le voile entre notre esprit et notre âme, c'est notre volonté. Et tant que le voile n'est pas déchiré, on ne peut pas vraiment avoir accès à la présence de Dieu. On peut chanter, on peut louer, on peut danser, on peut tomber. Mais tôt ou tard, il va falloir que le voile soit déchiré. Il va falloir que ta volonté soit brisée. La sienne est déjà brisée. Quelques secondes, le voile est déchiré. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'est plus ma vie. Tu es mon Seigneur. Ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Comme le petit cœur que nous chantons. Où tu voudras, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Alléluia! Parce que ce n'est plus ma vie. Mais c'est toi maintenant qui es ma vie. Et le Seigneur lui dit, continue ton chemin. Curieux, n'est-ce pas? Il aurait pu lui dire, retourne à Jérusalem, va voir les grands apôtres là-bas. Non, il lui dit, continue ton chemin. Rends-toi où tu devais aller, à Damas. Il devait loger chez un dénommé Judas, je pense, qui avait une grande maison là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il est arrivé, humilié, parce qu'il ne voit pas clair. Il est obligé d'être soutenu par ses soldats qu'il dirigeait il y a quelques instants à peine, et puis il s'est enfermé dans la maison de Judas. Judas lui a certainement demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Saul de Tarse? Tu as eu un accident? Un éclair t'a frappé? Qu'est-ce qui s'est passé, Saul de Tarse? Tu es aveugle? Depuis quand? Comment ça s'est passé? » Et sûrement que Paul lui a expliqué l'expérience qu'il vient de vivre. Il dit « Je vais être tranquille. Est-ce que je peux avoir une chambre? Je vais vraiment être tranquille pendant quelques instants. » Et vous savez le reste de l'histoire? Dieu est toujours en contrôle de toutes ces situations. Dieu est apparu à un de ses disciples dans la ville de Damas du nom d'Ananias, un inconnu. Je ne veux pas dire que parce que tu es un apôtre, tu vas avoir plus de visitations qu'un autre. Non, un simple disciple du Seigneur Jésus. Le Seigneur lui est apparu, il dit « Ananias! » Il dit « Me voici. » Donc, il est habitué à la voix du Seigneur. Il n'a pas eu peur. « Non, il dit « Me voici. » Et le Seigneur lui dit « Je voudrais, vois-tu ça, c'est des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Il y avait une œuvre préparée pour Ananias, il devait aller voir Saul de Tarse dans la maison de Judas, à Damas, lui imposer les mains, et lorsqu'il lui imposerait les mains, les écailles tomberaient de ses yeux, il serait guéri, mais non seulement guéri, il serait baptisé du Saint-Esprit, et il le baptiserait dans l'eau. Et en même temps, Dieu a parlé à Saul de Tarse. Puis il dit, un petit disciple qui s'en vient, celui que tu voulais mettre en prison à Jérusalem, il va t'imposer les mains, et quand il va t'imposer les mains, tes yeux vont s'ouvrir, et je vais me servir de toi. Et le Seigneur lui a montré d'avance, pas le grand ministère qu'il aurait, mais les choses qu'il devrait souffrir à cause du nom de Jésus. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Et c'est pourquoi le Seigneur ne nous a pas montré ça le jour qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, oh, Thérèse, je suis assez content que tu m'as accepté. Voici maintenant ce que tu vas souffrir pour moi au cours de ta vie. Mais il pouvait faire confiance à Saul de Tarse. Il pouvait lui montrer d'avance parce qu'il savait. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sonde nos reins. Il sonde nos cœurs. Et il savait qu'il pouvait dire ces choses-là à Saul de Tarse. Et il ne s'enfuirait pas. Il ne dirait pas, oh, excuse-moi, mais non. La souffrance, non, merci, la souffrance, non, je vais retourner comme j'étais avant. Alors, Ananias est venu, et c'est exactement ce qui est arrivé, comme vous le savez. Et là, Paul, parce qu'au début, Ananias n'est pas certain, parce que, comprenez, ils savaient, eux, à Damas, que Saul de Tarse s'en venait pour les faire prisonniers, pour les emmener captifs à Jérusalem, les forcer à blasphémer le nom de Jésus, les faire mourir. Tout le monde savait ça à Damas. Et au début, c'est comme si Ananias questionne le Seigneur en voulant dire, est-ce que tes sources de renseignements sont bonnes, Seigneur? Parce que ce gars-là, on ne peut pas vraiment y faire confiance. Probablement que c'est un truc pour savoir où on est, nous les chrétiens, pour mieux nous prendre et nous conduire à Jérusalem. Le Seigneur dit non, je l'ai choisi pour être un instrument entre mes mains pour prêcher l'Évangile aux nations du monde. Alors Ananias obéit. Et après que Saul de Tarse est guéri, baptisé du Saint-Esprit, baptisé dans l'eau, il veut se mettre à l'œuvre. Parce que Paul, c'est un caractère actif, quelqu'un qui ne viendra pas s'asseoir simplement sur une chaise dans un banc d'église. Il faut qu'il y ait de l'action dans sa vie. Alors, il est prêt à faire de l'action. Il veut prêcher à Damas. Tu sais, c'est un petit nouveau, là. Juste quelque chose. Il dit, je suis prêt à prêcher. Je connais la loi de Dieu par cœur. Il dira lui-même qu'il était irréprochable selon la loi. Élevé au pied de Gamaliel, il connaît la Bible sur le bout de ses doigts. Tout l'Ancien Testament. Et puis, il se dit, je suis capable de leur en donner de l'enseignement. Et il a essayé de prêcher à Damas et ça n'a pas fonctionné parce que les frères et les sœurs se méfiaient de lui. Et l'opposition est venue tout de suite. Et puis, le grand Saul de Tarse, on est obligé de le cacher dans une immense corbeille, de fermer le couvercle par-dessus la corbeille et avec une corde, le descendre de nuit le long de la muraille de la ville de Damas pour sauver sa vie. Et Paul ne comprenait pas trop comment le système de la grâce fonctionnait. Il est habitué à la loi, Paul. T'es habitué au sacrifice, t'es habitué à la discipline rigoureuse. Et il ne sait pas comment ça marche maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus une religion. Ce n'est plus des commandements d'hommes. Ce n'est plus la loi de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit. Et avant d'être un produit mature, adulte dans le Seigneur, le Saint-Esprit va te faire vivre certaines petites expériences qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Amen. Comme par exemple te conduire au désert. Amen. Seul dans le désert. Peux-tu t'imaginer un type comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, un homme habitué au public, un homme d'action, un commandant d'armée, seul dans le désert. Et c'est là que l'Esprit le conduit, dans le désert d'Arabie. Et monsieur, s'il y a des déserts secs, c'est là, en Arabie. Il n'y a rien qui pousse. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la vie du désert parce qu'on vit en Amérique du Nord. Si vous venez avec nous en Israël, ça va vous donner une petite idée qu'est-ce que c'est les déserts quand on va à Qumran. Quand on va dans le désert de Judée, là où Jésus a été tenté, c'est fascinant, les déserts. C'est comme si tu es en dehors de la planète, en dehors de toute civilisation. Il n'y a plus les bruits auxquels nous sommes habitués. Le bruit de voiture. C'est le silence. Et les bédouins, où les gens qui sont habitués à vivre dans le désert disent « Écoute le silence du désert, car le silence du désert va te parler. » C'est pourquoi la plupart des prophètes se retiraient souvent au désert. Pourquoi Jésus allait souvent au désert? T'es isolé. T'es seul avec Dieu. Et nous apprenons dans l'Épître aux Galates qu'il a passé à peu près 3 ans seul dans le désert d'Arabie. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a fait avec lui pendant ces 3 années-là? Il est allé à l'école biblique afin d'apprendre les voies de l'Esprit. On peut apprendre des bonnes choses dans nos collèges bibliques. Nous ne sommes pas contre les collèges bibliques. Si vous pouvez y aller, allez-y. Mais vous n'apprendrez pas la marche dans l'esprit. Ce n'est pas dans un collège biblique traditionnel que vous pouvez apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit. C'est dans le désert. En fait, il y a juste le Saint-Esprit qui peut vous l'enseigner. Et pendant 3 ans, Saul de Tarse a été transformé en l'apôtre Paul. Lui qui était si fier de son titre, Tarse, l'université de Tarse, l'instruction, la sagesse humaine, le raisonnement humain. Il a tout laissé ça dans le désert au profit de l'inspiration et de la révélation du Saint-Esprit en ce qui a trait aux choses spirituelles. Ouh, alléluia! Mais ça ne m'explique pas toujours pourquoi il est ici en Antioche. Et pour le savoir, vous allez devoir revenir la semaine prochaine. Ouh, alléluia! On se lève ensemble. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon.